du Mashiach ou des Mashiach, en fait. Ça va commencer par la racine, si on voulait, de Mashiach Ben Yosef. Et puis ensuite, il va y avoir la naissance des enfants de Yehuda, dont l'un d'entre eux, Peretz, est l'ancêtre de David et l'ancêtre du Mashiach. Alors, donc, il dit Meshichim, si on dit au pluriel, c'est parce qu'en fait, c'est pas très clair exactement quels vont être les rapports entre ces deux Meshichim. Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Est-ce que c'est une concurrence? Dans toute l'histoire juive, il y a une concurrence entre Yehuda et Yosef. D'accord? Si on veut comprendre un peu ce qui se passe, Yosef, c'est le fils de Rachel. Rachel, c'est la femme préférée de Yaakov. Et Yaakov va donner un statut particulier à Yosef. D'un autre côté, les frères, ils sont tous d'accord, et Yaakov va le confirmer, que le roi, la tribu royale, c'est Yehuda. Et par conséquent, quand Yosef va montrer le bout de son nez, va montrer que quelque part, il pense qu'il est un roi ou il a des velléités de, on va le prendre comme quelqu'un qui est en révolte contre le roi Yehuda. Et quelqu'un qui est en révolte contre le roi, il est Mored de Malchut, il est Chayav Mita. Alors, Yehuda n'est pas un roi couronné, mais les rois couronnés, ça viendra bien plus tard. Moshe Rabbeinu sera roi et roi. Shmuel Hanavi est roi. Moshe est roi. Yehoshua est roi aussi. Tout ça, c'est avant le premier roi qui est Shaoul. Il y a donc, en fait, il y a une royauté, mais qui est une royauté sans cour, sans tout le tralala, etc. Simplement, il est le chef. Mais c'est une royauté, il faut entendre comme une royauté du type Meller, c'est-à-dire un roi qui est accepté par les sujets, par ses sujets. Et donc, on va voir, y compris dans cette paracha-là, une situation où les sujets dégomment le roi, quoi. Quelque part, ils lui disent, bon, tu n'étais pas bon comme roi. Tu es plus roi. Ils le remplacent pas par un autre, d'ailleurs, mais ils vont le dégommer, Yehuda, à un moment donné. Alors, Yaakov, maintenant, il a eu à peu près, on a l'impression qu'il a, bon, il peut considérer qu'il a eu pas mal d'épreuves, quoi. Il a eu Ésav, il a eu Laban, l'histoire de Dina. Bon, et maintenant, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que on a passé, il y a eu 14 ans de où il était hors de chez lui parce qu'il était à la Yeshiva, Yaakov. Ensuite, une vingtaine d'années chez Laban, 2 ans de le retour après à peu près 2 ans. Là, maintenant, il arrive chez son père. Alors, il pense que bon, ben, régler les grands problèmes. Et donc maintenant, on va s'installer pour s'organiser. Donc c'est ça, Vayeshev. Vayeshev Yaakov. La chevet, c'est en français, on traduit en général par s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire, voilà, je suis là où je dois être. On est stable, on est installé. Traduire que Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé. S'est installé Be'eretz Megurei Aviv. Il s'est installé là où son père a vécu, en fait. C'est-à-dire Eretz Kenan, en pays de Kenan. Et le pasouk dit, Ele toldot Yaakov. Normalement, quand on annonce, voici les descendants, génération de issue de Yaakov, là, en l'occurrence, il devrait y avoir toute une liste. Rouven, Shimon, Lévi, etc.
Bonsoir.
Il n'y en a qu'un seul qui est mentionné. Le seul qui est mentionné, c'est Yosef. D'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul héritier, quoi. Alors, c'est clair que Yosef a un statut à part. Et qu'est-ce qu'on nous dit de ce Yosef? D'abord, on nous donne son âge. Il a 17 ans. Quelle source, c'est un ado. 17 ans, un ado. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, Roé il est berger comme ses frères. Le Tsebatson sont des bergers de petit bétail. C'est-à-dire, c'est pas un ranch avec des taureaux, etc. C'est des grandes, c'est des moutons, quoi. Des moutons, des béliers, des brebis. Petit bétail. Nahar. Alors, a priori, Nahar, c'est un jeune homme. On a déjà dit qu'il avait 17 ans. Alors, qu'est-ce que ça vient dire ici qu'il est Nahar? Il se comporte comme un ado. Et puis, il est avec les fils de Bilha, les fils de Zilpa, qui sont les épouses de son père. Pardon? Oh, donc. Yes. Ah, il y a un qu'elle est. J'arrive maintenant. Oui. Bah, on les fait entrer, mais on les voit pas. Ah, non, on ne voit toujours pas. On les fait entrer, mais. Ah, voilà. T'es venu à pied? T'es venu à pied, Yankel? Venu à pied, j'ai l'impression. Il vient de loin. OK. Donc, avec de Bilha servante. Ces servantes, c'était en fait des demi-sœurs, probablement des filles des concubines de Laban, qui n'avaient pas le même statut, la concubine n'a pas le même statut que les femmes de Laban, donc les filles des femmes, ce sont ses filles, et les autres, il les donne comme servantes. Alors, servante, a priori, c'est une esclave. Alors, on a un problème ici. Parce que, comme on nous dit, il y a des enfants des servantes. Alors, vous savez bien ce qui s'est passé. Quand Rachel a fini par comprendre que elle n'allait pas avoir immédiatement des enfants, il y a longtemps qu'elle n'en avait pas, et pendant ce temps-là, Léa en avait plein, elle a décidé de donner sa servante à Yaakov. Et elle lui a dit, la servante, elle va accoucher sur mes genoux. Ça veut dire que presque physiquement, c'est comme si l'enfant, il provenait des entrailles de Rachel. Bon, sinon, si elle accouche sur les genoux, il atterrit sur les genoux de Rachel. Alors, Rachel, elle pense, bon, alors c'est bien entendu elle qui va élever l'enfant, donc il est presque né d'elle, il est né d'une servante. La servante, on voit très bien que le statut de la servante, c'est d'être un peu une prolongation de la maîtresse. On va voir plus loin, on verra que quand Moshe est dans son berceau, là, dans son navire, là, il est sur le Nil, et que la fille de Paro, le mot Ama veut dire à la fois servante et il veut dire aussi coudée. Une coudée. C'est la main, quoi. Seulement avait été très au bord parce qu'elle n'avait pas entré dans l'eau. Et d'autres disent qu'elle a envoyé une servante le chercher. Donc c'est cette ambiguïté qu'il y a entre le corps de la servante en général, qui est vu comme une prolongation du corps de la maîtresse, et du coup même le ventre de la servante est une prolongation du ventre de la maîtresse. Et donc ces enfants sont bien les enfants des servantes, mais ils sont récupérés, si vous voulez, par Rachel et Léa. Les deux servantes ont chacune deux enfants. Donc on a quatre enfants de Yaakov, qui vont donner lieu à quatre tribus, qui ont un statut particulier. Parce que si on applique la loi de la Torah, ici, premièrement, un homme libre ne peut pas avoir de rapport avec une esclave. Pas permis. Donc, on comprend pas comment Yaakov, même si Rachel lui a donné sa servante, mais de quel droit? Alors, et puis en plus, si elle est une servante, alors l'enfant qui serait issu d'un tel rapport, l'enfant serait esclave. Et donc, on aurait quatre. Donc, on aurait un tiers des enfants d'accord, un tiers des tribus qui en fait sont des esclaves. C'est évidemment pas possible. Donc il faut dire que les Rachel et Léa, elles ont dû émanciper les servantes. Ils ont dû les libérer. À ce moment-là, elles étaient des femmes libres. Et donc l'enfant serait l'enfant de l'enfant serait... ben, l'enfant sera pas un esclave puisque la mère est une femme libre. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Yaakov a rencontré Ésaü et il lui a présenté toute sa famille, il avait dit à sa famille, vous irez en tête, et puis celui-là en deuxième, etc. Et tout à la fin, il y aurait Rachel avec Yosef, etc. Et quand il parle des servantes et de leurs enfants, il les traite, Yaakov dit, les servantes, Shfachot, Shifra, c'est une esclave. Donc lui-même, il l'appelle ces femmes-là, qui sont à ce moment-là des mères, puisqu'elles sont là avec leurs enfants, il les appelle servantes, c'est-à-dire esclaves qu'ils sont. Mais ici, dans ce verset, comme vous voyez, c'est présenté, qu'est-ce qu'on dit de ces deux femmes? Qu'elles sont Neshé Aviv, les épouses de leur père. Et c'était ça le gros problème, c'est que les enfants de Léa, ils méprisaient complètement les enfants des servantes et ils les appelaient esclaves. Leur demi-frère, quoi. Leur demi-frère, ils avaient le père en commun, ils n'avaient pas les mères en commun. Ils appelaient leur demi-frère, ils les appelaient esclaves. Et Yosef, il essayait d'aller du côté de ses demi-frères issus des servantes, pour essayer de les rapprocher, pour les apaiser, pour montrer que lui, qui était un enfant d'une femme, et pas d'une servante, il se mettait quasiment de plain pied avec eux. Ça, c'était la démarche de Yosef. Mais en vérité, ce qu'on verra après, ce que les filles, les fils des servantes lui ont jamais, n'ont jamais remercié, n'ont jamais fait une différence entre lui et les autres. Alors, suite du portrait de Yosef, Nar et Bnei Bilha et Bnei Zilpa, Neshe Avim, et les mots d'après, Vayavé Yosef et Dibatam Ra'a et la Vienne. Yosef a rapporté, il rapportait les mauvaises choses, les mauvaises paroles. C'est justement le fait que les enfants de Léa traitaient leur demi-frère d'esclaves. Il allait tout rapporter à son père. D'accord? Ça veut dire, c'est vraiment un sale gosse, quoi. Il raconte, il rapporte, etc. C'est du lachonara, on n'a pas le droit. Alors, bon, on va voir que le Rashi va ramener que Yosef va payer pour tout ça. Mais il y a aussi une question, c'est que on ne nous dit pas comment Yaakov réagissait. Vous savez, dans la Shonara, on est autant fautif si on écoute que si on dit. Et donc le problème, c'est comment Yaakov pouvait-il entendre, recevoir, s'il le recevait, ce que disait Yosef, surtout que la Torah ne juge pas nécessaire de nous dire comment il réagissait. Alors on peut toujours être dans le cas chose qu'il lui a toujours dit que non, et peut-être il a dû le rabrouer un peu de ramener tout ça. Et il ramenait pas seulement ça, en fait, il rapportait aussi que ses frères, en fait, ils respectaient pas vraiment la Torah. Il disait de ses frères que ses frères, ils avaient des relations interdites avec des femmes, qu'ils mangeaient de la viande qui était prélevée sur un animal vivant, ça s'appelle Ever Minachai. Et ça, c'est même interdit aux Bnei Noach. C'est l'interdit alimentaire des Bnei Noach de ne pas manger de la viande prélevée sur un animal encore vivant. Il a ramené tout ça, c'est pas à son père. Donc il y a ces trois choses. Et Yosef va être sanctionné, si vous voulez. Bon, en tout cas, il va comprendre que c'était complètement faux. Alors, c'est un peu pervers, si vous voulez. Parce que les frères, quand ils ont compris qu'ils rapportaient, eux, les frères, ils faisaient pas toutes les avérotes qu'ils disaient, mais ils faisaient des choses qui ressemblaient et ils cachaient, de telle sorte que lui, Yosef, qui n'était pas dans le coup, il avait l'impression qu'il faisait toutes ces avérotes. Et à la limite, tu vas raconter des trucs, hein, tu vas raconter des mensonges. Et donc, c'était la guerre, quoi. Il ne s'aimait pas beaucoup, vous allez voir dans les psukim que c'est un euphémisme hein, de dire qu'il s'aimait pas beaucoup. Voilà, ça, on a fait le portrait de Yosef, là. Et maintenant, les rapports de. Alors, maintenant, c'est complètement incompréhensible. Alors, ce qu'on a dit, c'est, vous avez vu, le verset dit, Vayeshev Yaakov, Veretz Migouravim, pardon. Il l'a appelé Yaakov. Maintenant, dans le troisième verset, dans le verset ici, il est appelé Israël. A priori, Israël, c'est un nom plus élevé que Yaakov. Israël, Ahav, et Yosef, Mikol Banav. Et Yaakov, Israël, il préférait Yosef à tous ses frères. Alors, on dit Ki ben zekuni moulo, parce qu'il était l'enfant de sa vieillesse. Il était aussi le seul qui était vraiment réceptif à l'enseignement de son père. Les autres, ils n'étaient pas terriblement intéressés. Et Vassalo t'en est passible. Il lui a fait une tunique, on ne sait pas très bien si elle était rayée, elle était multicolore. Enfin, en vérité, les Chazal disent dans le Midrash, ils disent que c'était une espèce de vêtement royal. Quelque part, il lui a acheté une tenue royale. Là, on voit vraiment Yaakov Avinu faire à peu près, il fait quelque chose de complètement faux, quoi. Bon. Préférer un enfant et ostensiblement le déguiser en permanence, il porte en permanence un vêtement qui est une provocation par rapport à ses frères. Parce qu'en plus, si c'est un vêtement un peu royal, alors quelque part, c'est pas simplement qu'il est préféré, mais que quelque part, c'est comme si Jacob, il l'installait un peu au-dessus des autres. Totalement incompréhensible, la façon dont Jacob traite ses enfants. Alors, ça n'a pas manqué. Vayiru et Rav. Ses frères ont vu Kyoto, Ahav, Aviem, Mikolechav. Ils ont bien vu que leur père aimait Yosef plus que ses frères. Vaisneu Oto. Et ils l'ont haï. Ils l'ont haï. C'est un rapport de haine à l'égard de leur frère, Yosef. Et au point que lo yachlo divro le shalom. Il pouvait, pardon. Il pouvait même pas lui parler en paix. Et alors, voilà, ça c'est la situation. Alors, imaginez la suite. La suite c'est, voyez, Chalom Yosef Chalom. Yosef, il rêve. Il rêve et il va raconter son rêve à ses frères. Et le résultat des courses, une couche de haine un peu plus grande, quoi. Ils le haïssent encore un peu plus. Pourquoi? Parce que il leur donne le récit du rêve. C'est quoi? C'est, on était en train de lier des gerbes, on était en train de moissonner, et chacun d'entre nous liait sa gerbe, et ma gerbe à moi, elle s'est dressée, et vos gerbes à vous se sont prosternées devant ma gerbe à moi. Et il leur raconte. Alors ils lui ont dit, d'ivoire, Amalor Timlor Kaleinu, est-ce que tu penses régner sur nous? Est-ce que tu penses devenir le Melech? Tu penses que nous, on va t'accepter comme roi? Et si on t'accepte pas, tu vas être Moshel, tu vas être un tyran, tu vas t'imposer à nous comme roi. Donc ils ont parfaitement bien décrypté le rêve. Vayosifu. Et donc ils ont augmenté encore leur haine à cause des rêves. Et aussi à la façon dont il leur a parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il rêve une deuxième fois. Dans cette paracha, les rêveurs rêvent souvent deux fois. Il a un autre rêve. Et lui aussi, il le raconte à ses frères. Et il leur dit, voilà ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il a raconté ça à ses frères. Il a aussi raconté à son père. Son père lui a fait une remarque. Qu'est-ce qu'il lui fait comme remarque, le père? Il lui dit, mais ça va pas ton rêve. Ma chalomazé, cher Chalamta. Est-ce que tu penses, tu es en train de nous dire que moi, et ta mère, et tes frères, on viendra se prosterner devant toi. Mais c'est pas possible. Ta mère, elle est plus de ce monde. Donc, tout ce qu'il a trouvé à lui dire, c'est que le rêve, il n'est pas très vrai, quoi. Il n'est pas complètement vrai puisque ta mère, elle est plus de ce monde. C'est tout ce qu'il a dit à son père. C'est tout ce qu'il lui a dit. Vaikanugo, maintenant, c'est-à-dire, il y avait la haine et maintenant il y a une jalousie. Et le père Shamar et Tadavar, Yaakov, il a mis ça dans sa mémoire, quoi. Il a mis ça, il a pas compris qu'est-ce que c'est que cette histoire. Lui, il l'a gardé comme ça en mémoire. Donc, on a une situation de haine et de jalousie des frères à son égard. Mais c'est, dans la Torah, elle dit le jalouse, il le haïsse, etc. C'est à mort, quoi. Et alors, voilà ce qui se passe. Les frères vont paître les troupeaux, faire paître les troupeaux à Shrem, ils vont à Naplouse. Et il faut que je vous explique que quand les frères étaient loin de leur père, chaque semaine, il y avait un des frères qui allait chez leur père pour faire un rapport, pour lui dire, oh, ils n'avaient pas les moyens, personne ne pouvait s'acheter un Internet à ce moment-là, donc ils étaient obligés d'y aller. Donc il y avait un qui allait chez son père et qui lui faisait un rapport sur comment ils allaient, eux, et comment allaient les troupeaux. Donc Jacob est parfaitement au fait de l'état des troupeaux et de l'état de ses fils. Il faut bien avoir ça dans la tête. Et néanmoins, Vayomer Israël el Yosef, Israël parle à Yosef. Vous voyez, le fait de le nommer chaque fois Israël, c'est comme si on était en train de dire ce qui se joue maintenant. Ça se joue bien sûr au niveau du personnage Yaakov, mais il se joue quelque chose qui concerne Israël, qui concerne le clan d'Israël, en fait. Il n'y a pas encore de vrai clan d'Israël, mais ce qui se joue là est quelque chose qui va être très très important pour le clan d'Israël. Et Yaakov, enfin Israël, dit à son fils, il lui dit, tes frères sont en train de paître à Shrem. Va, je t'enverrai vers eux pour que tu m'en fasses un rapport. Ça sert strictement à rien. Yosef ne va pas pouvoir donner d'informations différentes de ce que toutes les semaines, il y a un frère qui vient faire ce rapport. Yaakov n'a absolument pas besoin de ce qu'il demande à Yosef de faire. Ceci mis à part, il l'envoie au Caspide. Il va être là-bas, les frères le haïssent à mort, et Yosef répond quand son père l'appelle, Ineni. Ineni, c'est la réponse d'Abraham Avinu quand Hachem lui dit, lui parle, etc. Ça veut dire, je suis prêt à tout. Yosef, il comprend certainement que c'est extrêmement dangereux pour lui d'aller seul contre tous ses frères. Mais bon, j'ai l'impression que, moi je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression que on discute pas. Yaakov, quand sa mère lui dit, tu vas aller tromper ton père, il discute pas. Ce qu'il dit, c'est, mon frère, il est glabre et moi, il est poilu et moi, alors sa mère lui dit, moi, écoute, sans régler ça, va, dépêche-toi. Eliphaz, il discute pas avec son père quand son père lui dit d'aller tuer Yaakov. Et là, ça ne discute pas. Son père, il lui dit, tu vas là-bas, il va là-bas. Ah, c'est Sakanat Nefashot, je veux dire, il faut y aller avec une armée, là. Alors il lui dit, va s'il te plaît voir Shlom Achecha, va voir le si tes frères vont bien et si les troupeaux vont bien et rapporte-moi, fais-moi un rapport. Vayesha, alors regardez le verset. Le verset dit à la fin du verset, Vaishlachehu me'emek Chevron vayavo Shchema. Il l'a envoyé de la profondeur, la vallée, si vous voulez, de Hébron, et on nous dit tout de suite, bon, il est arrivé à Shrem. Il est arrivé à Naplouse. Qu'est-ce que vous voyez dans ce texte? On vous parle de Hébron. Si vous avez une petite idée d'Eretz Israël, Hébron, c'est loin d'être une vallée ou en profondeur. Hébron, c'est la montagne. Ben, ce n'est pas les Alpes suisses, hein, mais c'est quand même la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire, Emek Chevron? Ça n'a aucun sens. Ça peut pas être une indication géographique. Ça n'a aucun sens. Alors vous regardez Rashi sur ce verset. Verset Yud-Dalet. Mais Emek Hebron, Rashi dit, Valo Hebron Bahar. Comment il peut dire que c'est en profondeur, en vallée? Hebron, c'est dans la montagne. Comme on verra dans le récit des pérégrinations des explorateurs, on va dire, Vayalo, ils sont montés, Negev Vayavo, à Hebron, ils sont montés jusqu'à Hebron. Donc, il faut dire, et Rashi cite ici le Midrash de Bereshit Rabba, il faut le lire comme ça. Mais Eitsa Amuka, chez l'auteur tzaddik, Akavur Bechevron. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire, Yaakov, ici, c'est conforme, comme si il obéissait au conseil. C'est-à-dire, hein, ce que Abraham a accepté, celui qui est couché à Hébron, qui est enterré à Hébron, c'est Abraham. Quand on dit qu'il est dans les profondeurs, il est enterré à Hébron, c'est le Maratha Marpella, la caverne était à Hébron. Donc, on parle ici de la réalisation du projet d'Abraham. Ce projet d'Abraham, c'est quoi? Le projet d'Abraham, c'est, vous vous souvenez que Abraham il a eu une vision à un moment où Hachem a fait avec lui une alliance, qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. L'alliance dans laquelle ils ont coupé un bœuf en deux, etc., et ont passé au milieu. Et à ce moment-là, Abraham avait été saisi d'une torpeur, etc. Et il a vu des choses complètement effrayantes. Et Hachem lui a annoncé que ses descendants seraient esclaves en Égypte pendant 400 ans, etc. Après, ils allaient en sortir et que Hachem lui a dit, je jugerai aussi le peuple qui les a réduits en esclavage. Et donc, il y a ce projet-là. C'est considéré comme une Eitsa. C'est comme si c'était un conseil. Alors pourquoi c'est vu comme un conseil d'Abraham? Parce que ce que je vous ai raconté comme si Hachem lui avait dit ça, en vérité, le Midrash dit qu'Hachem a proposé à Abraham de choisir. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu préfères pour tes descendants? Est-ce que tu préfères la mort ou l'exil? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu préfères la mort? Ça veut dire, est-ce que tu veux que tes enfants soient comme les grandes civilisations, qu'ils vont grandir, devenir, atteindre leur apogée, puis ensuite dégringoler et disparaître de l'histoire, comme ça s'est passé avec toutes les grandes civilisations? Ou bien est-ce que tu préfères que tes enfants ne deviennent jamais très très grands? et qui passe par une phase d'esclavage dur, puis ensuite une sortie de l'esclavage. Et Abraham a choisi cette deuxième possibilité. Donc c'est Abraham qui a choisi qu'on allait aller en esclavage en Égypte. Ça se dit aussi d'une autre manière. Le Ramban et d'autres disent que la raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte, c'est justement parce qu'au moment de la famine, Abraham était descendu en Égypte. Et que pour Nachmanide, pour Ramban, Ramban est très critique à l'égard d'Abraham. Il dit qu'il aurait dû rester, qu'il aurait... D'autres sont restés, pourquoi lui n'est pas resté, etc. Et donc, il le critique assez vertement. Et donc, ici, vous me direz, mais comment c'est possible que Jacob, il envoie au casse-pipe son fils? J'ai l'impression que ce qui se dit là, même ces mots qui n'ont pas de sens, etc., ça parle à travers Jacob. Mais c'est Jacob en tant que petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire comme si, voilà, Abraham continue de parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met en marche le processus qui va mener les Bnei Israël en Égypte. Donc, il faut bien dire, répéter ce que j'ai souvent dit, c'est que la sortie d'Égypte, c'est pas la réparation de quelque chose de mauvais qui s'est passé. C'est-à-dire que les Bnei Israël, il est arrivé un accident et les Bnei Israël se sont retrouvés en Égypte et qu'il fallait les en sortir. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. L'important, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. On avait déjà dit, il y a deux naissances. Il y a une naissance à l'époque d'Abraham, mais bon, qui débouche sur l'esclavage où ils ont presque tout oublié de l'enseignement d'Abraham. Et la naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Si la sortie d'Égypte, c'est la naissance, alors la descente, l'entrée en Égypte, c'est la conception. Le clan d'Israël est en quelque sorte conçu, si on peut parler comme ça, au moment où il va descendre en Égypte. Et la descente en Égypte, elle commence par la descente en Égypte de celui, pas de Yosef donc, qui va descendre, on va voir, dans les caravanes en tant qu'esclave. Et Yosef étant, comme on l'a vu, c'est lui la prolongation, le toldot de Yaakov. Quelque part, ça veut dire la naissance du clan Israël. À ce moment-là, celui qui lui parle, c'est Israël, c'est plus Yaakov. Hein? La naissance du clan Israël commence ici, dans la deuxième version, par quelque chose pour mettre en marche la sortie d'Égypte. C'est ça qu'il faut entendre ici. Ce qui se passe, c'est ça. Alors, effectivement, Yosef part, il arrive à Shechem, et à Shechem, il cherche ses filles, ses frères, il ne les trouve pas. Et le verset dit que il y a un homme, un Ish, qui était là, et qui lui a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je cherche mes frères. Alors il lui a dit, ils sont plus là. J'ai entendu qu'ils disaient qu'ils allaient partir à Dothan. Alors Yosef est allé à Dothan. Et à ce moment-là, le texte dit, vous prenez le verset 18, Vayiru oto merachok. Les frères l'ont vu arriver de loin. Et avant qu'il ne s'approche d'eux, l'amito. Avant qu'ils ne s'approchent d'eux, ils ont le projet ils ont rusé avec lui, ils vont le tuer. En fait, le Midrash dit qu'ils ont lâché les chiens contre lui. Chiens de berger, chiens de troupeau, c'est vous bouffez un homme comme ça aussi, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiens n'ont pas obéi à leur maître, ils n'ont rien fait, les chiens. Donc, donc, c'est quand même étonnant. On a affaire au fils de Yaakov. Ils ont un projet de le tuer. Ils envoient les chiens et ils n'y arrivent pas. Les chiens ne leur obéissent pas. C'est les chiens qui leur obéissent tout le temps. Sur ce point-là, ils ne leur obéissent pas. Ils auraient quand même dû se demander comment se fait-il que les chiens n'obéissent pas. Donc, ils auraient quand même dû se demander, est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Est-ce que c'est pas un signe? Les chiens qui normalement nous obéissent ne nous obéissent pas ici. Ça veut dire que est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire que non, il ne faut pas le tuer? Rien du tout. Bon, ils n'ont pas réussi. Vayomru les frères se sont dit les uns aux autres, certains disent que c'était surtout Shimon qui parlait, etc. Iné ba la chalomot ala zeba. Voilà, le maître des songes, le maître des rêves arrive là. Et maintenant, allons, tuons-le, jetons-le dans un des puits, et on dira qu'un animal l'a mangé. On verra bien alors ce que seront ses rêves. De toute façon, donc ils en ont gros sur la patate avec les rêves, dire si on le tue, on verra donc. On voit bien ce que seront les rêves. Et Reuven, donc le fils aîné, il a entendu ça, et lui, il voulait pas. Lui, il voulait le sauver. Et pour le sauver, il a dit, on va pas tuer quelqu'un. Il leur a dit, ne versez pas le sang, on va pas le jeter, on va pas le tuer. Jetons-le dans un puits. Et on va le jeter dans ce puits-là. C'est un puits dans le désert, donc il va crever dans le puits, quoi. Mais nous, on va pas le toucher. Et lui, il avait l'intention de le sauver. Bon, après, je vais le sortir du puits et je vais le ramener à notre terre. Pourquoi il a agi comme ça? Parce que Reuven, il est l'aîné et lui, il se prend pour le roi. C'est-à-dire, lui, il se considère comme responsable. C'est lui l'aîné de la famille. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, non, c'est sur moi que ça va retomber. C'est moi qui dois les empêcher. Et ils ont quand même, ça, ils ont écouté. Ils lui ont pas coupé la tête. Je veux dire, ils l'ont pas poignardé, etc. Ils l'ont jeté effectivement dans le puits. Et on nous dit que le puits dans lequel ils l'ont jeté, regardez le, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il est arrivé, ils l'ont déshabillé, en fait. Ils lui ont enlevé sa tunique. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Et le passage continue et il dit, le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. Alors nos maîtres disent, ben, si on dit qu'il est vide, on a compris qu'il n'y avait pas d'eau. C'est quoi cette redondance? Alors on dit, ce qu'on veut dire, c'est que quand on dit qu'il était vide, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait les scorpions et les serpents. Donc il allait tranquillement mourir là-bas. Mais Reuven, il pensait que les serpents et les scorpions, ils obéissent à Hachem, en quelque sorte. Donc, s'il faut faire un miracle, contre les hommes, ils sont méchants, ils peuvent vouloir tuer quelqu'un. contre la volonté d'Hachem. Mais les animaux, ils font que la volonté d'Hachem. Et de facto, ils lui ont rien fait. Mais il n'est pas resté longtemps dans le puits, mais ils lui ont rien fait. Alors après, on apprend, on va apprendre qu'en fait, ils l'ont condamné à quel, je vous ai pratiquement dit, à quel titre on l'a condamné? On l'a condamné comme Moré de Malchut. Quelqu'un qui se révolte contre l'ordre du roi. Bon. Le roi, c'est Yoda. Lui, visiblement, il a des rêves de royauté. Bon, c'est très, très clair dans les rêves, en quelque sorte. Et par conséquent, ils ont considéré qu'il était Moré de Malchut. Hein. On peut juger quelqu'un, Moré du Malchut, et le tuer. Maintenant, le roi, il a toujours la possibilité de lui pardonner. C'est un truc qu'on a fait contre le roi. Si le roi veut, il dira, ou bien je te mettrai en prison plutôt que de te tuer, ou bien je te mettrai à l'amende, ou rien du tout, je sais pas. Le roi, il est semble-t-il, souverain là-dessus. Et eux, ils étaient tels, donc ils l'ont jugé, condamné à mort et jeté dans le puits. Et ils étaient tellement sûrs de la justesse de leur conduite, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il est dans le puits et eux, ils mangent. Ils s'installent pour manger. Ça leur a pas coupé l'appétit d'avoir condamné leur frère à mort. Et pendant qu'ils sont en train de s'installer, de manger, il y a une caravane qui passe, et après il y a les marchands, et Yehuda, il dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à gagner à le tuer? Vendons-le comme esclave. Bon, ça ne va pas rapporter grand-chose, mais il va disparaître de la circulation. S'il est vendu en esclave, et en plus, les marchands et les caravanes là, ils vont en Égypte. Il va être esclave en Égypte. C'est fini. Il va faire nous casser les pieds. C'est fini. Les rêves, etc. Et bien, a priori, ils ont raison. A priori, il n'y a aucune raison qu'ils s'en sortent. Reuven qui s'était éloigné. Quand il revient pour le sauver, il voit, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que je vais devenir? On va m'accuser, etc. Alors, bon, on en est là dans l'histoire. Ils ont fait encore une chose. Ils ont trempé la tunique dans le sang d'un cabri qu'ils avaient égorgé. Ils ont dû la déchirer un peu, etc. Et par la suite, ils vont montrer cette tunique déchirée à leur père. Ils vont lui dire, ça ressemble drôlement à la tunique que tu avais faite à Yosef, que tu la reconnais. Et Jacob va dire, oui, je la reconnais. Mon fils a dû être mangé par un animal sauvage. Et il a pris le deuil. Et tout le monde est venu le consoler, etc. Mais finalement, il était inconsolable. Il va rester dans ce deuil pendant des années. Inconsolable. Et du fait qu'il était en deuil, alors il avait plus de prophétie parce que la prophétie, elle nécessite la simcha. Il n'y a pas de présence divine si on est triste. Il faut la simcha. Et lui, il était incapable de simcha. Il était en train de... Là, on en est. Donc, Yosef est en Égypte et il a été vendu par les marchands Ils l'ont vendu à Potiphar. C'est le chef des bouchers, c'est un titre important, hein, à la cour de Paro. Et alors, la Torah, elle s'arrête de nous raconter l'histoire de Yosef. Elle commence quelque chose de complètement différent. La quatrième montée, la vie, chapitre début du 38. Vaï, baet, aï, vayered Yehuda, met, echav, vayet, ad, ish, adulami, ushmochira. Et là, on nous dit, à ce moment-là, cette paracha de Yehuda, Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on l'a placée ici, en plein milieu du récit de ce qui arrive à Yosef, boum, on parle de Yehuda. Rashi dit, le lamed, c'est pour nous enseigner, chez Oridou et Chav, vous avez annoncé, mes frères, ils ont dégommé Yehuda. Pourquoi? Que chez Raou, Betsarat, quand ils ont vu le désespoir de leur père, c'est insupportable, quoi. Ils ont dit à Yehuda, quand tu nous as dit, on l'avait condamné à mort. Quand on a dit, tu nous as dit, vendons-le, on t'a suivi. Si tu nous avais dit, OK, on lui a donné une leçon, maintenant on le ramène chez notre père, il en a pris pour sa prouille, etc., on peut le ramener, on t'aurait suivi aussi. Donc tu nous as pas donné le bon conseil. Et donc, c'est plus notre roi. Et donc, il a quitté ses frères et il est allé faire, Rachid dit, une choucroute. Il s'est associé avec un marchand. Il était actif. Ce marchand, il avait une fille. Cette fille, elle s'appelait, le marchand, il s'appelait Choua. Il avait une fille et Yehuda a épousé la fille. Et cette fille, elle lui a donné trois garçons. Et puis maintenant, on saute pas mal d'années. Et dans le verset Vav, verset 6, Vaikach Yehuda Isha, Me'er Bechoro, Ushma Tamar. Yehuda, il a marié son fils aîné, qui s'appelait Er, avec une femme qui s'appelle Tamar. Celle-là, on ne la présente pas du tout. Hein. On ne sait pas. Elle s'appelle Tamar. On sait. Et en fait, Er faisait partie des gens qui ne voulaient pas que sa femme soit enceinte parce que ça allait la déformer, déformer son corps. Donc, il s'est débrouillé pour balancer la semence à l'extérieur. Hachem n'a pas apprécié et il est mort. Alors, il est mort sans enfant. Et il y a une pratique qui va donner la mitzvah de Yiboum, qui était une pratique qui était très répandue, paraît-il, dans l'Antiquité. Et donc, c'est le frère, le deuxième, le frère qui doit épouser la veuve. Donc, il épouse la veuve, l'oblige à épouser la veuve. Mais lui, il n'a pas l'intention de. En principe, quand dans l'idée, si vous voulez, même si c'est purement symbolique, on épouse la veuve pour éventuellement qu'elle ait des enfants, ce qui serait une façon d'assurer une descendance pour le frère défunt. Bon, c'est toute une histoire. Mais lui, il ne voulait pas du tout. Il dit, moi, si j'ai un enfant, je veux que ce soit pour moi, pas pour mon frère. Et donc, lui non plus, il s'est débrouillé pour qu'elle soit pas enceinte. Si j'ai un enfant, il va être pour mon frère. Il préfère ne pas en avoir, parce que du coup, il n'en aura pas non plus avec elle, d'accord? Plutôt que d'en avoir qui serait pour son frère. Et donc, lui, il meurt aussi. Et un troisième frère qui est encore un peu jeune, s'appelle Shéla. Et la vérité, c'est que Yehuda, il a pas tellement, il n'est pas pressé de le donner à cette Tamar, parce que lui, il a l'impression que cette Tamar, ou bien elle est trop de sa déquête, ou on ne sait pas trop quoi. En tout cas, ses fils, ils sont pas à la hauteur, et du coup, il meurt. Donc, le troisième, il le donne pas. Et il dit à Tamar, écoute, on va attendre qu'il grandisse un peu. Il retourne chez ses parents, elle retourne chez ses parents. Et le temps passe. Et Yehuda, il lui amène toujours pas Tamar, pas Shéla, donc elle est toujours veuve. Or, c'est une femme qui, quand elle a accepté de d'épouser les enfants de Yehuda, elle veut entrer dans la famille, quoi. Donc elle va avoir des enfants. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, on lui dit que justement, Yehuda, qui est un peu déprimé avec tout ce qui lui arrive, la mort de ses fils, il est dégommé comme un roi, etc. Alors, à un moment donné, il est en chemin, il va aller tondre ses agneaux, ses moutons. Il est en chemin, alors Tamar, elle a entendu ça, on lui a dit, il est là, il va passer, là, ton beau-père. Alors, il faut que je vous explique. Le din de Yiboum, c'est un din un peu particulier. C'est pas qu'il va épouser la veuve. Il va prendre la suite de son frère. Rien du tout. Il va simplement, la fille, cette femme, elle était dans le lit de son frère, elle sera dans son lit à lui maintenant. Point barre. C'est comme ça que ça se fait. Et on n'a même pas besoin de kavanot, rien du tout. Ils vivent ensemble. Il prend vraiment la suite de son frère. Et ça, c'est ce dîn-là, il est seulement pour un frère. Ça, c'est le dîn Torah. Mais avant Matan Torah, ça pouvait être n'importe qui de la famille. Je ne sais pas exactement pourquoi c'était tellement répandu, mais j'ai un peu l'impression qu'une femme seule, dans ces sociétés-là, elle était probablement méprisée et tranquillement violée, etc. Et que c'est une forme de protection qu'on lui offre. Elle n'est pas obligée de le prendre. Elle peut trouver des prétextes pour dire qu'elle veut pas, qu'il me dégoûte ou n'importe quoi, elle ne devra pas le prendre. Mais bon, ou alors elle sait quelqu'un d'autre va l'épouser, donc. Elle va obtenir, si le beau-frère ne l'épouse pas, il faut qu'il lui donne, non pas un guet, mais une khalissa, une procédure qui va lui permettre d'épouser ensuite qui elle veut. Donc, ça veut dire, c'est comme si, quand tu épouses quelqu'un, tu épouses un peu la famille, et la famille, elle te prend aussi en charge. Bon, parce que si elle est mariée, alors, bon, on n'attaque pas les femmes mariées. Et donc, elle s'est dit, OK, ça va pas. Elle s'est fait passer pour une prostituée. Elle s'est mise sur le chemin de Yehuda. Et bon, Yehuda a eu un rapport avec elle. Et quand il lui a proposé un rapport, elle lui a dit, OK, combien tu es prêt à me donner? Alors il lui a dit, écoute, j'ai rien sur moi, parce qu'il était vraiment. Rien du tout sur moi, mais quand j'arriverai à ma bergerie, On verrait un cabri, un agneau. Il a dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu me donnes en gage en attendant? A dit, mais toi, j'ai rien. Il dit, ben, donne-moi. Il avait sur lui ce qui était, d'une certaine manière, les insignes de sa royauté, quoi. Il avait son bâton de maréchal, il avait je sais pas, sa gibecière, je sais pas quoi. Il avait trois choses. Ils sont les signes de ce qu'il était. Alors, il dit, donne-moi ça, en attendant, ton gage. Et il lui donne. Dès qu'il arrive à la bergerie, il dit à son assistant, et tu vas lui apporter, va récupérer les gages, et ramène-lui un cabri ou un agneau. Donc il y va. Et là où elle se tenait, non, d'où est la prostituée qui se tient ici, d'habitude, on dit, il n'y a jamais eu de prostituée là. Et donc, bon, il fait son enquête, il n'y a jamais eu de prostituée. Donc il revient, il n'a pas pu. Il dit à Yehuda, ben voilà, je suis allé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de prostituée ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors Yehuda lui dit, écoute, moi je veux avoir payé ma dette. Alors, toi tu vas acquérir en son nom à elle le cabri. Quand tu la trouveras, tu lui donneras. Enfin, moi, je veux m'être débarrassé de mon obligation. Mais en attendant, elle a les signes. Et puis, le manque de peau, je sais pas quoi, en tout cas, elle est enceinte. Et donc, quelqu'un dit à Yehuda, voilà, un certain temps, on dit à Yehuda, tu sais, ta bru, elle est enceinte. Or, quand une femme, se trouve dans la situation où normalement elle devrait épouser le Yavam ou recevoir la Khalissa, elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un taret, mais c'est un lav, c'est un interdit. Et bon, dans cette famille, on dit qu'elle était dans la famille de Shem, etc. Bref, ils étaient sévères sur ce genre de choses. Et donc, Yehuda dit, bon, ben, si elle est enceinte, on va la condamner à mort. Elle va être brûlée. Et quand elle a entendu qu'elle allait être brûlée, elle a fait passer à Yehuda les signes qu'il lui avait donnés. Et elle lui a dit, voilà, je suis enceinte de celui qui m'a donné ça. Est-ce que tu, voilà, à quoi de jouer, en quelque sorte? Elle n'a pas voulu le dénoncer publiquement. Elle pouvait s'en sortir en disant, je suis enceinte, mais de celui qui m'a, de mon beau-père. Mais elle lui a dit, écoute, si tu ne le reconnais pas, bon, ben, je mourrai, moi, les deux jumeaux, je ne dénoncerai pas. Et lui, et Yehuda, il a dit, Tzadka mimeni. Elle a raison, elle est enceinte de moi et c'est ma faute. J'aurais dû lui donner Shéla. Et alors après, il y a un verset qui est un peu compliqué. C'est un verset dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. C'est un verset qu'on peut lire à la fois depuis, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais eu de rapport avec elle. Ou bien il l'a épousée et il a vécu avec elle. On peut lire les deux. C'est un verset qui est pas suffisamment clair. Il y a quelques versets dans la Torah qu'on peut lire de deux manières différentes. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en a été, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que quand elle a accouché effectivement de deux jumeaux. Un qu'on appelle Peretz, c'est l'autre qui s'appelle Zera. Et Peretz, c'est l'ascendant, c'est l'ancêtre de David, du roi David. Et c'est aussi, donc, de ce fait, l'ascendant du Mashiach. Du Mashiach descendant de Yehuda, donc. On appelle plutôt Machir Ben David, mais Machir Ben David, son ascendant, c'est Yoda. Alors voilà cette histoire qui nous est racontée en plein milieu de l'histoire de Yosef. Donc on commence quand Yosef est en Égypte. Pendant ce temps-là, ça va aussi très mal pour Yoda, comme on vient de l'entendre ici. Tout se passe pas bien pour lui. Mais finalement, il a deux enfants, et en tout cas, un des deux va, les deux sont réussis, mais un des deux va devenir très important. Il va avoir une descendance fondamentale. Alors, une fois que ce récit-là est terminé. Donc, avec la naissance des jumeaux. Alors, au chapitre 39, la Torah continue, l'histoire de Yosef. C'est vraiment, on a inséré l'histoire de Yehuda en plein milieu de l'histoire de Yosef. On la reprend là où on s'était arrêté. D'ailleurs, le verset, il répète. Yosef ourad Mitzrayim, il a été acheté par Potiphar, le prince des bouchers, des Ishmaélites qu'il avait descendu là-bas. Comme si, voilà, on a recollé les morceaux, on a recollé au récit précédent. Alors, Joseph est esclave dans la maison de Potiphar. Et tout ce qu'il touche réussit. Hachem a fait en sorte que Joseph réussisse. Et donc son maître voit que tout ce qui passe par lui réussit vraiment. Et il lui donne quasiment les pleins pouvoirs pour gérer sa maison. Mais bien sûr, tout se passe très très bien. Et à la fin, on nous dit, mais le problème, c'est que Yosef, il était Yéfé Tohar Yéfé Maré. Il avait de beaux traits, un beau visage. Qu'est-ce que ça vient nous raconter là? Il était beau. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la femme de son patron, elle a jeté les yeux sur lui et elle lui propose d'avoir des rapports avec elle. La Torah, elle est très claire là-dessus. Elle lui dit, couche avec moi. Et il refuse. Et il lui tient un discours, ça sert à rien, mais bon, il lui tient un discours, il lui dit, voilà. Je ne peux pas faire une chose pareille à mon maître. Toute la différence entre lui et moi, il m'a donné quasiment les pleins pouvoirs sur la maison. Toute la différence entre lui et moi, c'est toi. Parce que toi, tu es sa femme. Je ne peux pas lui prendre sa femme. Je ne peux pas me conduire comme ça. Alors elle insiste. Et il cède jamais. Alors, un beau jour, lui, ce jour-là, un jour de fête chez les Goïms, elle s'est dit, ça c'est le bon jour pour moi. Elle a donné congé à toute la maisonnée, allez faire la fête. Et quand il est arrivé, elle avait dit, mais moi, je peux pas y aller, je me sens pas bien, je sais pas quoi. Et quand Yosef est arrivé, alors le verset dit, il arrive la sotte melarto. Il vient faire son travail. Pourquoi le texte nous dit qu'il vient faire son travail? Évidemment, il n'est pas Il n'est pas en train d'aller au Club Med, il vient chez son maître, c'est pour, il, je pense, il vient pour travailler, quoi. Quand on me dit qu'il vient pour travailler, c'est évident. Rachis sur le verset Lassot Melacho, Rachis rapporte aux Amorim, le maître de la Gemara, Hanamar Melacho Mamash, un dit il est venu faire son travail, au sens habituel du terme. Et l'autre dit, on ne sait pas qui dit quoi, mais c'est un des deux. L'autre il dit, Lassot sur Kav, Imar. Bon, il avait décidé qu'il allait céder. Aujourd'hui, il avait décidé de céder. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde parce que c'est le jour où elle a décidé qu'elle allait sortir le grand jeu. Elle a viré tout le monde. Ils sont tout seuls dans la maison. Lui, il vient, d'après un des Amoraïm, il vient, il a décidé de céder. Pourquoi il décide de céder? Parce que Yosef, se rappelle. Et à la réflexion, on peut penser que d'en passer par Madame Potiphar, qui est surtout une femme qui a sûrement vu la position de son mari, etc., elle a peut-être la possibilité de le faire sortir de, en tout cas sortir de son état d'esclave, etc. Il devient son amant. Donc, il a pesé le pour et le contre, le pour et le contre, et là, maintenant, d'après une opinion, c'est une marloquette, oui. D'après une opinion, il a décidé qu'il allait céder. Et au moment où il, donc elle l'entreprend, et où il a l'intention de céder, il voit l'image de son père. Et ça l'a arrêté. C'est ce que dit Rachid. Rashi cite la Gemara dans la Sefet Sota, qui nous raconte les choses comme ça. Donc, il a vu l'image de son père, et il a refusé. Et donc, il s'est enfui, c'est lui qui est parti. Et malheureusement pour lui, il avait laissé une partie de ses vêtements sur place. Elle a pris les vêtements. Elle n'avait rien besoin de raconter quoi, de dire quoi que ce soit. Personne n'était au courant de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de quoi faire un scandale. Mais elle a décidé de faire un scandale. C'est-à-dire, elle a attendu que tout le monde soit là. Elle a commencé à crier. Il n'y avait personne dans la maison. Elle pouvait crier tant qu'elle voulait. Quand ils sont arrivés, elle a bien crié encore. Et elle a raconté à tout le monde, voilà, mon mari nous a amené un esclave, et là, il a voulu, etc. Et comme j'ai crié, il est parti, mais j'ai réussi à lui arracher son vêtement, etc. Et quand son mari est revenu le soir, elle lui a fait le cinéma, le même cinéma, et puis elle lui a dit, voilà ce qu'il m'a fait, il m'a fait ça, etc. C'est très compliqué, cette histoire, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais la Torah, elle le dit que Potiphar, en vérité, c'est un eunuque. Il est Sris, il Saris, les eunuques. Les gens qui étaient les grands personnages autour des grands rois, etc., qui avaient probablement presque accès au harem ou je sais pas quoi, on les mettait en situation de ne pas pouvoir. Donc c'est un eunuque. Donc, elle était sa femme, bon, d'accord, mais c'était un eunuque. Et Potiphar, il n'a pas vraiment cru sa femme. Mais il était bien obligé de faire comme s'il la croyait. Et donc, il a mis Yosef en prison. Et tout le monde comprend bien que quand un esclave essaye de violer la femme du patron, c'est pas en prison qu'on l'envoie. Et il l'a pas seulement envoyé en prison, il l'a envoyé dans la prison des princes. Il l'a envoyé dans la prison où on envoie les VIP, les gens qui sont très importants, qu'on a attrapés, qui ont fait des fautes, mais on va pas les mettre avec la racaille. Donc, il y a des prisons spéciales. Et c'est dans cette prison-là qu'il a envoyé son esclave qui est censé avoir essayé, tenté de violer sa femme. Vous voyez bien que c'est sûr qu'il n'y a pas, il n'y a pas qu'un seul mot de ce que sa femme lui disait, mais il ne peut pas lui dire, je crois pas, c'est, je sais pas si elle a cru que, je sais pas exactement que, quel jeu il joue l'un par rapport à l'autre. Mais... Et donc il est en prison, mais il est en prison des princes. Et un jour, il y a deux princes qui atterrissent dans la prison. Il y a des gens très, très haut placés, parce que l'un, c'est les chansons, et l'autre, c'est le panetier de Paro. C'est les gens qui côtoient Paro tous les jours. Le chanson, c'est celui qui lui présente le vin, et le panetier, c'est celui qui présente le pain et les viennoiseries, je sais pas comment on dit, les viennoiseries en Belgique. Même pas où il était, dans quelle ville. Et bon, ils arrivent en taule, et de nouveau, Youssef est dans la prison, et tout ce qui touche ici, donc le chef de la prison, il lui donne aussi quasiment carte blanche pour gérer la prison. Et un jour, un matin, Youssef arrive, là, il voit les deux princes. Il leur dit, vous avez une sale tête, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ils lui disent, on a rêvé, on n'arrive pas à comprendre, connaît pas nos interprétations de nos rêves. En vérité, ils ont tous les deux rêvé, et chacun a rêvé l'interprétation de rêve de l'autre. Il a son rêve, qu'il ne comprend pas, mais il sait exactement ce que veut dire le rêve de l'autre. Alors, Yosef leur dit, ben, écoutez, Elohim, il inspire les gens, racontez-moi votre rêve, j'essaierai de vous répondre, de vous aider. Alors, il lui raconte le rêve. Les chansons racontent son rêve en premier. Et Yosef interprète le rêve de les chansons positivement. Et le panetier, il sait que ce que Yosef a dit est vrai. Parce que lui, il avait aussi rêvé. Il connaît l'interprétation du rêve de les chansons. Et il connaît pas le sien. Alors, le panetier, quand il voit que ça, Yosef, il connaît les bonnes interprétations, il dit, voilà, moi, je veux raconter mon rêve à moi aussi. Il raconte son rêve. Et Yosef lui explique son rêve. Les deux rêves sont très symétriques. Seulement, le rêve de les chansons, il aboutit sur les chansons qui retrouvent son job. Et le panetier, il est pendu. Et donc, Yosef lui annonce qu'il va être pendu. Et les choses se déroulent comme ça. Et quand Yosef a expliqué à les chansons qu'il allait être remis dans ses fonctions, il lui a dit, tu te souviendras de moi et tu peux glisser un mot à Paro, je suis là, j'ai rien fait de mal et je voudrais bien sortir de cette prison. Mais évidemment, les chansons, il s'en est pas souvenu, il a même fait ce qu'il pouvait pour oublier, il avait dit oui, oublier son engagement de dire un mot pour Youssef à Paro. Et voilà, on en est là. Paro, Youssef est en tôle, les chansons est auprès de Paro, le panetier est pendu, et voilà. Et Yehuda, il est marié ou pas avec Tamar. Et Tamar, Elle a donné naissance à deux jumeaux, à deux garçons, Eretz et Zera. Il y a une chose peut-être encore qu'il faut dire. Les Chachamim disent, Madame Potiphar, c'est pas simplement une femme qui a envie de coucher avec Yosef. Madame Potiphar, elle a vu, en astrologie, elle a vu qu'elle allait avoir une descendance avec Yosef. Et elle veut entrer dans la famille, elle veut, et ces femmes-là, elles veulent. Et le Midrash dit que c'est au tout début de l'affaire, Tamar et Madame Potiphar sont à la même hauteur. Elles veulent du bien, elles veulent entrer dans la famille pour le bien. Seulement quand ça marche pas pour elles, alors à ce moment les chemins divergent. Tamar, elle est prête, plutôt que de faire honte à Yehuda en public, elle est prête à se laisser brûler en public. Et Madame Potiphar, alors qu'elle a rien à, elle a rien à craindre, parce que il va rien raconter, même s'il racontait quelque chose, on va pas donner confiance, on va pas faire confiance à un esclave contre la parole d'une matrone égyptienne. Et malgré tout, elle se venge contre Yosef. À ce moment-là, ça tourne mal. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu presque juste. Elle a vu qu'il allait avoir une descendance, mais en fait, la descendance de Yosef, elle va se faire avec une fille adoptive des Potiphar. Les Potiphar, ils vont adopter une fille, et cette fille va être la fille que Yosef va épouser. Certains vont dire, en réalité, cette fille-là, cette fille qui a été adoptée par les Potiphar, qui va donc épouser Yosef, c'est en réalité la fille de Dina. Dina, c'est la fille de Léa, qui a été violée, et elle était enceinte de ce viol, elle a eu une fille. Et Yaakov, il a décidé que, pas quelle raison, qu'il voulait pas qu'elle reste là. Il lui a écrit une amulette pour la protéger et il l'a envoyée en Égypte, je sais pas pourquoi, où a été adoptée par les Potiphar. Et c'est cette femme-là qui est la fille de Potiphar. Donc Madame Potiphar, ce qu'elle a vu, qu'il y avait une descendance. La descendance, elle n'était pas entre elle, mais sa fille adoptive. Et si elle était sa fille, alors elle serait dans le coup, mais elle est seulement sa fille adoptive. Voilà. Alors, la suite, elle sera la semaine prochaine.